France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la marche des sciences, émission spéciale Grand Portrait.
Elle a trouvé très jeune, dans le travail manifestement, la meilleure compagnie pour se construire. Alors elle a développé une force de travail absolument extraordinaire, mais qui est aussi une vraie force intérieure. Je trouve que Edith, ce qui lui permet et d'être modeste, et d'être discrète, et d'être gentille, et d'être attentive aux autres, etc., etc., c'est parce qu'elle a une force en elle.
Elle a une force en elle, et il en faut pour naviguer dans son univers. Au-delà des gènes, Edith Hurd est l'une des meilleures spécialistes de l'épigénétique, de cette mémoire cellulaire qui met le monde de la recherche en ébullition depuis déjà quelques années. Généticienne britannique formée à l'université de Cambridge auprès des plus grands noms de la discipline, Edith Hurd a fait ses premières armes à l'Institut Pasteur en 1990 avant de diriger l'unité de génétique et biologie du développement de l'Institut Curie à Paris. Et elle est l'une des rares femmes nommées professeure au Collège de France, titulaire de la chaire épigénétique et mémoire cellulaire depuis 2012. Dans son parcours riche de rencontres et de belles découvertes, elle n'a eu de cesse de comprendre les processus épigénétiques, tels que l'inactivation du chromosome X. Car aujourd'hui, on sait que l'ADN n'explique pas tout. Alors quelle part joue l'épigénétique dans le développement de chaque individu ? Quel rôle remplit-elle en matière d'hérédité, d'évolution des espèces ? Quel lien peut-on tisser entre épigénétique et développement de maladies ? Comprendre tous ces mécanismes est un enjeu majeur aujourd'hui. Et c'est le travail et l'engagement de notre invité, fer de lance de ce nouveau champ disciplinaire qui porte en lui beaucoup d'espoir pour de nombreux malades atteints notamment de cancer. Entre vie privée et vie publique, Edith Hurd a accepté de se confier dans ce grand portrait qui lui est consacré sur France Culture et de nous expliquer sa partition du génome et de la vie au-delà des gènes, une émission émaillée d'interviews réalisée par Catherine Decopé auprès de proches de notre invité et d'archives sonores de l'INA choisies par Anaïs Morales.
Alors, je crois que c'est quelqu'un qui a une immense capacité de travail. Ça, c'est quelque chose de très frappant. Elle est capable de se mettre dans un coin avec son ordinateur et de préparer un séminaire ou d'écrire un papier. Et elle s'entoure d'une bulle et ça, c'est sa force. L'autre chose, c'est sa volonté d'avoir un laboratoire qui fonctionne bien. Et donc pour ça, elle a plusieurs approches. D'une part, elle voudrait que les gens s'entendent bien entre eux, donc elle fait des réunions et des choses comme ça. D'autre part, elle participe aussi beaucoup à de très nombreux congrès à l'étranger. Du coup, elle revient, elle raconte ce qu'elle a entendu, mais c'est aussi sa façon à elle de disséminer ce que les gens ont fait dans son laboratoire au niveau des congrès. Donc, je crois que c'est ça, c'est cette espèce d'intérêt pour les gens qui travaillent avec elle, qui sont sa spécialité, en plus de son intensité de travail.
Bonjour Edith Hurd.
Bonjour.
On vient d'entendre deux voix depuis le début de l'émission, au micro de Catherine Decopé. Tout d'abord celle de Blandine Collot, qui est enseignante, chercheure en latin et votre belle-sœur. Et à l'instant, Louisa Dandolo, directeur de recherche au CNRS, au département génétique et développement de l'Institut Cochin. Et donc vous avez rencontré à Pasteur, on va en parler. Et toutes les deux quand même sont sur cette même image de vous, celle de la force de travail seule et en équipe.
Oui, c'est, je pense, important pour tout chercheur de pouvoir avoir une force de travail. La recherche implique énormément d'énergie, de concentration. Et j'ai appris très jeune de travailler, de me concentrer sur mes études, sur les sujets qui m'intéressaient. Et j'ai réalisé assez tard, finalement, dans mon parcours à l'université, que peut-être cette force était utile pour faire la recherche.
Et une force aussi guidée par la passion, hein, on le sent quand même.
Ah, tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas avoir une force, en tout cas pour la recherche en biologie, sans avoir la passion. C'est évident que la découverte de ce sujet, de cette discipline dans laquelle je travaille maintenant, me propulse toujours vers des nouvelles choses et je trouve l'énergie qu'il faut.
Alors, c'est un domaine en pleine ébullition. On peut peut-être démarrer quand même, pour nos auditeurs aussi, Edith Hurd, par une définition alors, de la génétique et de l'épigénétique. Est-ce qu'on peut faire ça?
Oui. Alors, la génétique, c'est tout ce qui est l'hérédité, enfin, la compréhension de la transmission des traits, donc les lois de Mendel qui ont été découvertes, redécouvertes au début du XXe siècle. Et les lois de cette hérédité qui sont devenues finalement les règles du jeu en biologie, mais avec en parallèle des études par des embryologistes, par des chercheurs qui regardaient comment un embryon se développe. Et une réalisation que ces règles de la génétique ne pouvaient pas forcément tout expliquer si facilement. Il y avait l'hypothèse, mais qui n'a pas été prouvée jusqu'à assez tard, finalement, dans les années 50, que dans chaque cellule de notre corps, c'est le même ADN, c'est les mêmes gènes. Donc comment, avec le même génome, les mêmes gènes, on peut avoir des cellules qui sont si différentes, les cellules de la peau, les neurones. Et c'était dans les années 40 que Conrad Waddington, un scientifique britannique, a décidé de nommer une nouvelle discipline qui fusionnait la génétique et la biologie du développement, qui était en fait l'épigénèse. Il a nommé ça l'épigénétique. Et donc, l'épigénèse, c'était l'étude de l'embryogenèse. C'était une des hypothèses qu'à partir de neuf fécondés, avec une cellule, on crée quelque chose de beaucoup plus complexe progressivement. Donc, à partir d'une cellule, on crée un organisme complexe. Et ce concept date d'Aristote, en fait, l'épigénèse. Mais c'était Waddington qui a décidé de mêler ces deux disciplines, finalement, la génétique et l'épigénèse, et il a créé ce mot épigénétique. Et l'épigénétique est donc l'étude de tout changement stable d'expression des gènes qui n'implique pas un changement dans la séquence de l'ADN. Donc, on crée à partir d'une cellule l'œuf fécondé avec un génome, toutes sortes de cellules différentes, toujours avec le même génome, mais le génome, les gènes sont utilisés différemment. Et donc, cette utilisation différente, cette expression de gènes différentielle et qui est stable, qui est l'épigénétique. En tout cas, ma définition de l'épigénétique.
Non, mais très clair. En tout cas, si on comprend bien, donc ça veut dire que nos cellules ont toutes le même patrimoine génétique, mais elles ont des missions différentes, alors nerveuses, immunitaires, hépatiques, musculaires. Hein, c'est ça. Exactement. Donc ça veut dire que finalement, les gènes ne sont pas les seuls maîtres du destin de nos cellules, et il y a d'autres données qui viennent s'ajouter à l'information donnée par les gènes, et donc ces autres données, ce sont ces marques épigénétique, dont on va parler et on va découvrir de quelle façon est-ce qu'elle donne aussi aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'espoir, non seulement dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde des malades. Alors, partons justement sur votre parcours, Edith Hurd, parcours d'une londonienne. Je vous propose d'écouter tout d'abord justement votre amie Louisa Dandolo.
Elle est arrivée à l'Institut Pasteur pour faire un post-doctorat et moi j'étais dans le laboratoire où elle est venue. Donc c'est comme ça que je la connais. Moi j'étais déjà chercheur CNRS dans ce laboratoire qui était le laboratoire de Philippe Avener à Pasteur. Et en fait quand Edith est arrivée, on s'est rendu compte qu'on avait suivi un même chemin, c'est-à-dire qu'elle avait fait sa thèse à Londres, dans un des instituts de recherche de Londres. Et moi j'avais fait un post-doctorat à Londres 10 ans avant. Et en plus on avait été au même étage, donc on connaissait les mêmes personnes, on connaissait les mêmes lieux et c'est ça qu'on avait en commun. C'est une amitié qui est constante. C'est, même si on ne se voit pas pendant quelques temps, on se retrouve comme si on s'était parlé hier.
Vous êtes très proche hein, avec Louisa Dandolo. Je rappelle qu'elle est donc directrice de recherche au CNRS hein, et donc au département génétique et développement de l'Institut Cochin. Et que donc vous êtes effectivement rencontrée à Pasteur.
C'est ça. C'est vraiment une grande amie et on a une amitié qui est fondée sur nos parcours qui sont similaires, mais aussi peut-être un petit peu culturels parce que elle est moitié américaine et je me suis sentie tout de suite sur la même longueur d'onde qu'elle en arrivant en France. Voilà, jeune anglaise qui était un tout petit peu perdue. Donc elle m'a beaucoup aidée et c'est quelqu'un, oui, sur lequel je compte beaucoup pour des conseils. On est très proches.
Vous avez ce partage d'un milieu pluriculturel, hein, parce que Edith Hurd, donc votre père est anglais, mais votre mère grecque. Pour Louisa Dandolo, son père américain et sa mère italienne.
Exactement. Oui, oui, oui.
Et donc, est-ce que justement le fait de venir de ce monde aussi qui a été le vôtre, hein, au cœur de Londres, mais un milieu pluriculturel, vous a peut-être aussi donné d'autres perspectives ou explique aussi ce que vous êtes aujourd'hui?
Bien sûr, je pense que je me sens jamais totalement britannique ou totalement grecque ou pas française. Je me sens européenne et c'est clair que j'étais élevée dans une maison qui était très très diverse, on va dire, avec une mère grecque très dominante, un père britannique très dominant aussi. Et je pense qu'effectivement, je suis sortie de cette maison, de cette éducation. Avec, je dirais, une sensibilité pour la diversité. Et je me sens très bien dans le milieu scientifique parce que ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Les scientifiques, c'est un milieu international. Donc, il n'y a pas de barrière. Il y a une grande liberté d'expression, de compréhension entre nous. Et je pense que ce background gréco-britannique était important pour me préparer dans tout ça, oui.
Mais ce chemin vers la science a été le vôtre parce que vos parents ne sont pas scientifiques et je crois que votre père avait d'autres ambitions pour vous, hein, même peut-être musicienne ou...
Alors mon père était ingénieur et il m'avait poussé vers la science, hein, très fortement on peut dire même. Il voulait que je devienne ingénieur. Pour lui la biologie ne comptait pas, c'était pas une science. En fait. Mais il était aussi passionné par la musique. Donc j'étais élevée vraiment dans une maison où la musique était très dominante. Et j'avais un talent pour le piano. Et sans qu'il me pousse, hein, j'aimais ça. Et à un moment, on se posait un peu la question, est-ce que je fais une école de musique? Mais je n'étais pas assez bonne pour faire ça, mais j'adorais la musique. Mais par contre, il était très, très derrière moi pour tout ce qui était scientifique. Et j'ai fait donc des études finalement, plus en physique et mathématiques. Et finalement, j'ai découvert la biologie.
Mais avec cette sensibilité pour la musique, là, vous reconnaissez ce qui passe justement?
Oui, oui.
C'est Henri Vieuxtemps, ouais. Concerto numéro 4 en ré mineur, opus 31, interprété par Hilary Hahn.
Ouais.
Quelqu'un que vous aimez beaucoup, je crois.
Je suis un grand fan. C'était une découverte pour moi, Hilary Hahn. C'est quelqu'un d'exceptionnel, une musicienne, une jeune musicienne avec un talent incroyable. Je suis toujours très émue de l'entendre. Elle est impressionnante.
Alors, donc, virtuose en piano, je crois que vous avez joué aussi de la clarinette, hein, éditeur, voilà.
Oui.
Allons jusqu'au bout dans ces secrets, effectivement, d'enfance. Donc, des études de physique à Cambridge, les cours de biologie cellulaire, vous avez eu des professeurs prestigieux, vous avez fait une thèse en cancérologie à Londres, et puis vous arrivez en France, à l'Institut Pasteur, donc dans cette équipe du généticien Philippe Avener, c'était en 1990.
Exactement, oui.
Et là, c'est la paillasse. Alors, la paillasse, c'est moins drôle, peut-être.
Bah, déjà, pendant ma thèse, c'était la paillasse.
Oui, hein.
J'ai fait beaucoup de paillasse. Mais pour moi, c'était un changement assez drastique parce que j'avais fait cette thèse en cancérologie et j'avais réalisé très vite qu'il fallait comprendre un petit peu comment les cellules se comportent de manière normale pour pouvoir comprendre comment une cellule cancéreuse se comporte. Et j'ai choisi le laboratoire de Philippe Avener parce qu'il travaillait sur une problématique qui était développementale et qui associait la génétique. Et la génétique était ma seule formation en biologie. J'étais formée, comme vous l'avez dit, en physique, mathématiques, chimie. J'ai découvert très tard la biologie et je me suis sentie toujours, d'ailleurs je me sens toujours, un peu en arrière, avec des lacunes dans mes connaissances. Et la génétique permet un peu ce côté mathématique. Donc en fait, j'ai décidé de travailler d'abord sur le cancer. Et ensuite, en arrivant en France, commencer à attaquer ce phénomène qui est l'inactivation du chromosome X qui mêle la génétique et la biologie du développement.
Alors, avant de partir justement sur ces recherches précisément, je vais vous faire écouter la voix de quelqu'un parce que on se rend bien compte que dans cette voix qui a été la vôtre, il y a eu aussi peut-être des rencontres et en tout cas des mentors. Mais vous allez me dire si vous reconnaissez justement, on l'écoute tout d'abord.
Nous, êtres humains, nous sommes constitués de 10 000 milliards de cellules qui sont renouvelées constamment, de l'ordre de 0,1% par jour. Chaque jour, chacun d'entre nous fabrique 400 millions de kilomètres d'ADN, soit la distance aller-retour de la Terre au Soleil. Je suis né en Picardie, dans la Somme. J'étais fasciné par l'observation au microscope, un petit microscope que m'avaient offert mes parents, fasciné par l'observation de ces êtres unicellulaires qu'on trouve dans les eaux des mares et des étangs. Donc, jeune adolescent, mes rêves ont été peuplés d'observations au microscope, de sciences expérimentales, en oscillant entre la physique, la chimie et l'admiration que j'avais pour le vivant.
Alors,
Tania Louva.
Formidable. Voilà. Que vous avez rencontré à quel moment alors?
Alors, c'était quand j'étais à l'Institut Pasteur. Il avait son unité. On était dans le même bâtiment, Jacques Monod. Et j'étais toujours très impressionnée par ce monsieur, cet homme scientifique qui avait une énergie et une éloquence. Et j'avais appris qu'il voulait monter un institut, enfin un nouveau bâtiment dédié à la biologie du développement au moment où il a décidé de s'installer à l'Institut Curie. Il a pris la direction de l'Institut Curie. Donc j'avais entendu parler de ça en 1998, je pense, et je me souviens très bien, j'avais couru derrière lui dans un parking à Pasteur pour lui demander si c'était vrai. Il m'avait dit oui, ben venez voir. Et je suis allée à l'Institut Curie quelques années plus tard. Je montais mon équipe, mais en fait, donc j'étais accueillie dans l'unité de Geneviève Al-Mouzni. Donc Geneviève Al-Mouzni, c'est une grande épigénéticienne aussi, oui, qui travaille sur la chromatine et qui avait monté une unité elle-même à l'Institut Curie. Donc j'ai démarré mon équipe dans cette unité qui était très propice pour les études sur l'épigénétique. Mais le fameux bâtiment de biologie du développement de Daniel Louva a pris quand même 10 ans pour être construit. C'est pas simple de faire pousser un bâtiment sur la montagne Sainte-Geneviève. Donc c'est un beau bâtiment tout neuf, mais ça a pris du temps. Et donc c'était en 2008-2009 que j'installais mon équipe. Enfin, on a bougé et c'est depuis ce moment-là que je suis là-bas. Et c'est vraiment Daniel Louva qui a eu, je dirais, ce rêve de implanter la biologie du développement au sein d'un institut dédié au cancer.
Et finalement, son admiration pour le vivant qui a rejoint votre rêve de l'épigénétique et voilà, qui s'est couplé comme ça à Curie. Mais pendant que le bâtiment se montait et que tout se mettait en place, vous étiez en train de mener vos travaux à l'Institut Pasteur. Et là, on repart du côté de Louisa Dandolo qui s'est confiée auprès de Catherine Decopé.
En fait, elle est arrivée dans le labo au moment où on a trouvé le gène qui était responsable de cette inactivation. Et ça faisait 30 ans qu'on cherchait ce gène. Donc ensuite, elle a beaucoup participé au mécanisme de régulation de l'expression de ce gène et en essayant de comprendre comment ça se passait, comment on pouvait éteindre tous les gènes d'un chromosome. Et je crois que petit à petit, elle a développé des techniques et puis une approche qui ont abouti à des résultats assez spectaculaires. Alors il y a d'autres laboratoires aussi qui travaillent là-dessus, mais elle est un des piliers de cette recherche-là. Edith est quelqu'un de très ouvert aux autres. Donc en fait, une de ses particularités, c'est de collaborer avec un grand nombre de gens. Et donc, de cette façon-là, elle a réussi à intégrer des technologies qui sont assez pointues. Et c'est ça qui l'a aidé à développer son sujet et à être vraiment à la pointe. En plus, elle a eu des gens remarquables qui ont travaillé avec elle et qui ont participé, évidemment, à tous ses projets.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Alors Edith Heard, il faut qu'on en sache un petit peu plus effectivement sur votre méthode, sur la technique de labo, ce que vous avez mis en place, parce que c'est vrai que quand on plonge dans vos travaux, il y a cette découverte de l'inactivation du chromosome X chez les mammifères femelles, hein, et d'ailleurs souvent vous évoquez les travaux pionniers de la biologiste Mary Lyon en 1961. Oui.
Donc c'est Mary Lyon qui a découvert ce processus, une généticienne remarquable, qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, en 2014.
Que vous aviez rencontré, je crois.
Que j'avais rencontré et avec laquelle j'avais gardé un contact, une correspondance par mail. C'était très précieux et pour moi, c'était vraiment une grande dame de science, de biologie, une généticienne remarquable. Donc, elle a fait des observations juste sur la base de la génétique de la souris, les couleurs de pelage. Elle a réalisé que les souris femelles qui avaient un gène lié à la couleur du pelage n'avaient pas une couleur de pelage homogène, mais des plages de couleurs différentes, alors que les mâles avaient une seule couleur. Et donc, elle a proposé que pour expliquer ce mosaïcisme d'expression de ces gènes qui étaient liés au chromosome X, qui étaient sur le chromosome X, elle a proposé qu'un des deux chromosomes X doit être éteint, mis en silence très tôt au cours du développement, et que cette extinction arrive de manière, on va dire, aléatoire. C'est soit le X qui vient du père, soit le X qui vient de la mère qui est éteint, et ensuite cette inactivation est propagée de manière stable au cours des divisions cellulaires. Donc c'était un processus épigénétique par excellence. Mmh. Elle a postulé ça en 61. Et très vite, d'autres chercheurs ont réalisé qu'il y avait une région du chromosome X qui était responsable de cette mise en silence.
Une mise en silence qui dure toute la vie?
Qui dure toute la vie et qui, parfois, peut être déstabilisée dans certaines cellules, on se rend compte, et puis à certaines phases du développement, mais surtout dans la lignée germinale de chaque individu, de chaque femelle, on reprogramme le chromosome X inactif, on remet en activité ce chromosome X qui était silencieux. Donc le X est là, l'ADN est toujours là, simplement il est éteint. Et donc la réalisation quelques années plus tard qu'il y avait une région du chromosome X qui était responsable de cette mise en silence était la base en fait du travail que j'ai fait quand je suis arrivée à Pasteur. Le laboratoire de Philippe Avner travaillait justement sur cette région, essayait de chercher le molécule, le gène qui déclenchait ce processus. Et comme l'a dit Louisa Dandolo, c'était l'année en 90 quand je suis arrivée que le gène a été découvert. Presque par hasard, mais c'était vraiment le début de l'aventure. Comment un gène, un seul gène sur un chromosome qui porte 1300 gènes, est capable de le mettre en silence? Et c'était, je dirais, 10 ans de travail ardu pour essayer de définir quelle est la région qui régule ce gène. Et ensuite, j'ai passé à l'étude de comment ce gène agit pour mettre en silence le chromosome X. Donc, je suis une chercheuse parmi plusieurs qui ont essayé de comprendre ce processus, mais qui reste toujours assez mystérieux, on peut dire.
Et des travaux menés donc sur le monde animal, mais pas forcément humain?
L'inactivation du chromosome X, c'est un processus qui
uniquement
est
animal.
Uniquement animal et uniquement mammifère.
D'accord.
Voilà. Alors, d'autres organismes ont des chromosomes sexuels et il y a d'autres mécanismes pour gérer les différences entre les mâles et les femelles. Mais pour les mammifères, c'est l'inactivation du chromosome X qui est mis en place.
Alors, est-ce qu'on a regardé du côté des hommes? Toute femme porte double X, voilà. Et les hommes XY.
Voilà, c'est justement le problème, enfin pas le problème, mais le défi, c'est d'égaliser la quantité d'expression des gènes liés à l'X, parce qu'il y a deux copies chez les femmes et une seule copie chez les hommes. Il y a le chromosome Y qui est aussi présent chez les hommes et qui est responsable en partie pour les traits masculins. Mais le chromosome X est un chromosome beaucoup plus important, plus grand que le Y. Et donc une double dose de ce chromosome pose des problèmes si on n'arrive pas à équilibrer entre les sexes.
Ça veut dire que les femmes ont une plus grande diversité cellulaire.
Alors, grâce à l'inactivation du X, grâce au mosaïcisme d'expression du chromosome X...
On arrive à l'équilibre.
Arrive à l'équilibre et on a une plus grande diversité, justement parce que nous avons des gènes qui ne sont pas tous identiques. C'est-à-dire, les deux chromosomes X ont les mêmes gènes, mais il y a quand même des petites différences dans ces gènes. La séquence de l'ADN n'est pas strictement identique. Donc, par exemple, on a des gènes qui codent pour les mêmes traits, mais avec des toutes petites différences. Et le fait que certaines cellules expriment le X qui vient du père et d'autres le X qui vient de la mère fait qu'on a une diversité cellulaire plus importante, comme on le voit chez les souris avec ces pelages bigarrés que Mary Lyon avait observé, mais aussi, par exemple, les chats calicots ou les chats des cailles de tortue. Là, cet mosaïcisme est juste un symptôme de cette diversité qu'on trouve chez les femelles.
Et donc, aujourd'hui, on cherche pour comprendre, j'imagine, alors comment ces marques épigénétiques sont mises en place, le rôle qu'elles jouent sur le fonctionnement, l'architecture du génome, ça vous occupe au quotidien.
Exactement. Et ouais. c'est on réalise de plus en plus, il y a une grande diversité de marques épigénétiques qui sont importantes pour ce processus, l'inactivation du X. Mais ces marques épigénétiques, on les trouve aussi ailleurs dans le génome et sont aussi responsables de l'expression différentielle des gènes. Donc, au cours du développement, quand une cellule commence à prendre son identité, c'est parce que certains gènes sont actifs et d'autres inactifs. Et c'est les mêmes types de marques épigénétiques qui sont responsables pour la stabilité d'expression différentielle de ces gènes.
En tout cas, ça veut dire que le corps, enfin, quel qu'il soit, de mammifère, fonctionne bien. C'est-à-dire que s'il y a une inactivation, c'est parce qu'il y a une bonne raison pour que ce processus se mette en place.
Tout à fait. Un embryon femelle qui n'arrive pas à inactiver un de ses chromosomes X meurt très vite. Donc, c'est absolument critique d'avoir le bon dose des gènes. Une double dose des gènes sur le X ou de certains gènes pose un problème. Comme on le voit, par exemple, pour les trisomies, une troisième copie d'un chromosome pose des problèmes. Et dans le cas du chromosome X, vu cette différence entre les hommes et les femmes, il faut équilibrer cette double dose du chromosome X avec cette inactivation d'un des deux X.
Alors, on va continuer à parler épigénétique avec vous, bien sûr, dans l'émission Edith Heard. Mais là, on se dit, bien sûr, on a compris votre force de travail, ça occupe un temps infini. Vous avez quand même des moments à vous, on imagine, des soupapes. On en parle dans un instant après avoir entendu ces quelques propos de Blandine Collot, qui est votre belle-sœur.
Donc, en réalité, c'est l'univers grec, l'univers de la mer, de la mythologie... des mots grecs, tout simplement, du goût pour cette langue, du goût pour les Grecs. Sinon, depuis toute petite, elle y allait. Donc, c'est là qu'elle se retrouve. Elle n'aime pas le sport, mais enfin, elle aime quand l'eau est chaude. Donc, la mère grecque est parfaite pour ça. Non, je crois que c'est peut-être le laisser aller dans ces endroits-là, parce qu'il n'y a que là une île grecque pour réussir à vous offrir ça, avec les rêveries possibles, les lectures possibles, mais surtout peut-être les rêveries justement possibles dans ces endroits-là.
Alors vous volez du temps au temps, on imagine, pour avoir des moments d'évasion peut-être?
Oui, la Grèce est effectivement très importante pour moi. Ma langue maternelle était le grec. Depuis toute petite, j'ai passé beaucoup de temps pendant les vacances en Grèce. Et vous m'avez posé la question de cette force de travail. Je peux dire que cette force est venue de la Grèce. En fait, chaque année, la période que je passais en Grèce me ressourçait. C'était vraiment l'impression de trouver une énergie que je ne trouvais pas ailleurs. Et ça reste vrai, la Grèce pour moi est non seulement mon pays maternel, mais vraiment le pays qui me donne l'énergie et la force, parce que c'est un pays aussi très très intéressant, plein de douceur. Évidemment, c'est la langue aussi, les mots, la mer, mais aussi avec une histoire qui est quand même assez incroyable et récent, et même maintenant, ce qui se passe en Grèce est très émouvant pour moi. Donc voilà, oui, c'est la Grèce finalement qui est ma distraction, on peut dire.
Alors là, on va basculer dans le choix musical. Et ce choix musical, on s'est permis de le demander à vos enfants. Ils vous ont réservé une petite surprise, apparemment un album que vous adorez. On l'écoute et après on y revient. Sur cette chanson hit de Christine and the Queens que nous poursuivons la marche des sciences sur France Culture en compagnie d'Edith Heard, épigénéticienne de renommée internationale, directrice de l'unité de génétique et biologie du développement de l'Institut Curie à Paris, professeure au Collège de France et titulaire de la chaire épigénétique et mémoire cellulaire depuis 2012, une plongée dans le parcours, l'univers, l'histoire et les passions de cette femme de science en immersion dans un domaine de recherche en pleine ébullition, l'épigénétique. Alors, une réaction tout d'abord à ce choix fait par vos enfants, hit de Christine and the Queens.
Oui, alors Christine and the Queens, j'ai découvert assez récemment et j'ai entendu un petit peu le parcours de cette chanteuse qui a découvert un peu son talent, enfin sa vision de la musique qu'elle voulait faire à Londres. Donc pour moi, ça représente aussi ce lien entre la France, l'Angleterre, le mélange et puis, oui, la richesse, je dirais, en France, de la musique jeune, active. Donc j'adore.
Et cette identité londonienne aussi qu'on perçoit dans son parcours et puis dans ses chansons. Et donc là, on sent, c'est le choix de vos enfants, je le disais, il y a ce rôle de mère et de femme scientifique professionnelle du monde de la recherche. C'est pas toujours évident. On retourne du côté de Louisa Dandolo sur ce thème.
Je pense qu'elle trouve que c'est un petit peu compliqué de gérer en parallèle une vie de famille et une vie scientifique. Elle part très souvent à l'étranger pour des congrès, donc ça lui prend beaucoup de temps et d'énergie, mais je pense effectivement que ses enfants sont une part très importante de sa vie et maintenant ils sont grands, mais ils sont quand même encore très présents dans son esprit. En tant que femme et chercheuse, c'est pas toujours facile d'arriver en haut, c'est le fameux plafond de verre, évidemment. Je pense qu'Edith a réussi à arriver où elle est sans trop de difficultés, parce que c'est une personne qui est brillante et communicante et qu'elle a été appréciée par beaucoup de gens. Je pense que les gens ont senti qu'elle avait quelque chose à apporter et que c'est pour ça qu'on lui a donné cette situation de professeur au Collège de France, par exemple, et puis la direction du laboratoire et de l'institut dont elle fait partie. Donc je pense que les gens ont compris qu'elle avait un rôle important à jouer et qu'elle était capable de le jouer.
Alors, mère et femme de science.
Oui, je pense que c'est difficile pour beaucoup beaucoup de femmes. Mais c'est aussi, c'est passionnant. Je pourrais jamais faire autrement et je pense que mes enfants ont compris aussi que être femme de science et mon travail était très important, était ma passion. Et puis, je pense que j'ai transmis un tout petit peu de ça aussi à mes enfants qui eux-mêmes sont passionnés de ce qu'ils font. Donc finalement, c'était facile et très difficile en même temps. Ça demande une énergie incroyable. Effectivement, il y avait des moments, des années qui étaient plus difficiles que d'autres, mais quel plaisir de voir des jeunes grandir et d'accompagner cette jeunesse et puis aussi de faire ma recherche et de voir que les autres jeunes, les jeunes de mon équipe, progressent aussi et que les découvertes arrivent, donc c'est super.
Ce sont des jeunes adultes, hein, aujourd'hui 20 et 24 ans, je crois, mais ils n'ont pas embrassé forcément le monde de la science pour autant.
Non, et c'est très bien comme ça.
Par contre, vous avez cette même passion partagée au sein de votre couple, hein, puisque votre compagnon, c'est Vincent Collot, et qui est directeur du laboratoire à l'École normale supérieure, donc spécialiste d'épigénétique des végétaux. Et là, effectivement, cette fusion, cette cohésion, cette passion avec des identités différentes, on va l'apercevoir avec ces propos de votre belle-sœur Blandine Collot.
Je ne sais pas comment ils ont fait quelquefois pour vivre avec autant de travail l'un et l'autre, à en emporter en vacances. Je pense qu'en même temps, heureusement qu'ils ont l'un et l'autre eu le même type de travail pour comprendre la contrainte dans laquelle ils étaient l'un et l'autre, et de manière suffisamment différente et dans des caractères suffisamment différents pour que ça fonctionne, parce que ça aurait pu être un enfermement. C'est pas du tout le cas. Et là, j'avoue que mon frère, de ce point de vue-là, je pense qu'il avait la fantaisie qu'il fallait. Si Edith est une travailleuse, je dirais, irréductible, Vincent, mon frère, pour qui des fois le travail, comme moi-même d'ailleurs, pose des problèmes, avait aussi la capacité, la fantaisie, qui, je pense, qui les a beaucoup aidés l'un et l'autre.
On va commencer très simple, hein. Chromosome, ça vous dit quelque chose quand même, hérédité, ça vous dit quelque chose, ADN aussi. Et on va quand même commencer avec Mendel, les petits pois, là, les pétales blancs, rouge, donc deux lignées pures. Ce moine travaillait seul dans son coin à Brno dans les années 1860 et essayait de démontrer effectivement quelles étaient les caractéristiques de la transmission de caractères bien définis. Et la clé du travail de Mendel, c'était de se focaliser sur des caractères extrêmement simples à suivre. Couleur des pétales, forme des petits pois, lisse ou rugueux, etc. Et il eut la chance à chaque fois de tomber sur des caractères qu'on appelle de nos jours monogéniques, c'est-à-dire déterminés par un seul gène dans notre génome. Ça va ? Les termes sont pas trop pointus ?
Alors voilà, c'était Vincent Collot, votre compagnon, lors d'une conférence donnée dans la Nuit des Sciences. Une même passion donc pour la recherche et pour les questions de santé publique, hein, peut-être d'ailleurs, parce que c'est vrai que vos travaux peuvent aboutir à beaucoup d'espoir. On va y arriver, mais il vous arrive de réfléchir ensemble pour d'ailleurs faire avancer la recherche?
Oui, on échange quand même sur le sujet de l'épigénétique, mais aussi sur la science en général, mais... Peut-être notre force, et nous ne parlons pas que de ça, et qu'effectivement, comme Blandine, ma belle-sœur, que j'adore et que j'admire énormément, a évoqué cette fantaisie. Et c'est vrai que Vincent, il est intéressé par beaucoup de choses, par le monde en général. Et il a su me sortir un peu de ma petite coquille de recherche et de passion de ce que je faisais pour découvrir autre chose. Donc, on parle science, mais on parle aussi autre chose. Et c'est vrai, c'est très important, je pense, dans une famille, de ne pas être trop obsédé par une seule chose.
Et en même temps, on sent que cet équilibre fonctionne bien. Et pour vous, cette obsession vous permet aussi de faire avancer cette recherche pour nous, hein, et pour les générations de demain. Alors, comment ces marques épigénétiques sont-elles mises en place? Quel rôle jouent-elles sur le fonctionnement et l'architecture du génome? C'est ces questions qu'on peut se poser. Finalement, on se rend compte de beaucoup de choses, hein, aujourd'hui, Edith Heard, notamment aussi du rôle de l'environnement, hein, sur, et ça, c'est un grand pas.
Tout à fait. Je pense que Le mot épigénétique, enfin tout ce qui est associé avec, a fait beaucoup rêver les gens, parce que on a séquencé le génome, on a peut-être tout compris, trop compris, mais il y avait cet espoir qu'avec l'épigénétique, les marques épigénétiques, on pouvait varier un peu l'utilisation de ce génome, même entre individus, pas juste entre cellules dans le même individu. Donc c'était, je dirais, une discipline qui était un peu descriptive. Et récemment, depuis quelques années, on commence vraiment à avoir les outils pour comprendre les bases de l'épigénétique, la nature de ces marques, les mécanismes de mise en place et les mécanismes d'effacement, parce que c'est très important. Il faut effacer ces marques, par exemple, dans la lignée germinale, pour ne pas passer le bagage, on va dire, de mémoire de l'environnement et de tous les changements dans un corps à ces enfants.
Donc, parce en que fait, c'est variable, c'est flexible.
Voilà, faut que ça soit flexible et réversible. C'est une des clés de cette notion d'épigénétique. C'est, on ne change pas la séquence de l'ADN, on peut l'éteindre ou l'activer, mais il faut que cet changement soit réversible à certains moments dans le développement ou dans la ligne germinale. Donc en fait, on a réalisé qu'il y avait des modifications de l'ADN. On appelle ça la méthylation, qui est une sorte de décoration, on va dire, de l'ADN, qui ne change pas la structure de l'ADN, mais cette méthylation des cytosines permet donc un changement de la lecture de l'ADN. Et très souvent, cette méthylation est associée avec une répression de l'expression des gènes. Et cette méthylation peut être mise en place au cours du développement. Elle peut aussi être effacée dans certains types cellulaires ou dans la lignée germinale. Et c'est que récemment que nous avons commencé à comprendre quels sont les mécanismes, quels sont les acteurs, les protéines qui viennent pour mettre en place ces marques ou pour les enlever à des moments critiques.
Alors, l'Institut Curie est l'un des premiers centres de recherche à s'être intéressé dans de nouvelles thérapies issues des recherches en épigénétique, donc à s'être intéressé à ce phénomène. On sait aujourd'hui que, par exemple, une cellule cancéreuse comporte des mutations génétiques et des modifications épigénétiques. Du coup, on sait que de nombreux mécanismes épigénétiques entraînent des dérèglements génétiques liés, par exemple, à l'apparition des cancers. D'où l'importance de savoir aujourd'hui comment ça fonctionne et à cause de quoi, finalement, cette variation est en place, c'est-à-dire qu'est-ce qui déclenche. Je parlais tout à l'heure du rôle de l'environnement. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, du rôle de la malnutrition, le stress, les substances chimiques qui nous entourent? Est-ce que aujourd'hui on les pointe comme responsables du développement de certaines maladies?
Bon, je suis toujours très prudente par rapport à cette thématique environnement, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, par exemple, les produits chimiques, le stress peuvent bien sûr induire des changements dans des marques épigénétiques. Ils peuvent induire des changements au niveau de l'expression de nos gènes, mais c'est pas pour autant que ça conduit à une maladie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est toujours en plein exploration. Par contre, nous savons que certains produits chimiques induisent des mutations, changent le génome et donc peuvent conduire à des cancers. Donc ce lien entre des maladies comme le cancer et l'épigénétique, c'est un lien qui a des hauts et des bas depuis des décennies. Et c'est que récemment que nous avons réalisé qu'effectivement, dans les cancers, on voit qu'il y a des grands changements épigénétiques, mais qui sont aussi accompagnés ou liés à des grands changements génomique, c'est-à-dire la séquence de l'ADN a été mutée. Et une des découvertes du séquençage des génomes des tumeurs, donc depuis quelques années maintenant, on a la capacité d'aller lire le génome, non seulement d'un être sain, mais aussi d'aller regarder dans des tumeurs. Et une des grandes découvertes était que beaucoup des mutations trouvées dans des tumeurs sont dans des gènes qui codent pour des protéines qui sont impliquées dans des processus épigénétiques. Donc, les protéines qui vont aller méthyler l'ADN dont j'ai parlé tout à l'heure, ou même le déméthyler, c'est très souvent ces protéines qui sont mutées. Ce n'est pas que ça, bien sûr. Il y a tout un tas d'oncogènes, de suppresseurs de tumeurs. Mais on sait maintenant qu'il y a une grande fréquence de mutations dans les modificateurs de l'épigénétique. Et C'est là où on réalise qu'effectivement, la dérégulation de l'épigénome dans les tumeurs est certainement due en grande partie à ça, c'est-à-dire une mutation dans la séquence de l'ADN qui va affecter une protéine qui, elle, va agir un peu partout dans la cellule, sur le génome et sur l'épigénome. Et maintenant, nous sommes à ce stade où on essaie de comprendre mais comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut faire pour que, effectivement, la cellule change de caractère, puisse être dans un contexte tumoral, par exemple, comment une cellule devient métastatique. Est-ce qu'il y a un lien entre les dérèglements épigénétiques et la capacité d'une cellule d'envahir ou de proliférer de manière encore plus incontrôlée? Donc, je pense qu'il y a un lien avec l'épigénétique qui est clair, mais nous ne pouvons pas vraiment parler, je dirais, de thérapie épigénétique qui cible telle ou telle maladie de manière précise.
Non, pas encore. Même si je pense que le but des chercheurs aujourd'hui, c'est in fine d'arriver à ça, c'est-à-dire pouvoir suffisamment bien comprendre pour ensuite proposer des thérapies qui vont peut-être inverser le processus enclenché.
Exactement, parce que réverser une mutation dans l'ADN est très difficile, quasiment impossible. Par contre, un changement épigénétique, par sa nature, est réversible. Donc l'espoir, c'est que si on peut identifier les changements épigénétiques dans certains types de tumeurs, nous pourrions ensuite définir le type de traitement qui peut réverser ce type de changement. Nous savons qu'il y a déjà des traitements qui marchent, qui sont on appelle ça des épidrogues, donc il y a des molécules qui peuvent aider à des changements de méthylation. On sait que ça marche en clinique, mais nous ne savons toujours pas exactement comment ça marche, je dirais, moléculairement.
D'accord. Et donc, ça veut dire que malgré tout, dans l'application aujourd'hui, il y a des essais cliniques engagés, mais alors pour lutter contre quelle maladie?
Alors, par exemple, l'illucémie, nous savons que pour l'illucémie, il y a certains agents comme la décitabine qui vont jouer avec la méthylation, qui peuvent effectivement changer l'état méthylé des cellules. Et ces drogues peuvent marcher pour certains types de leucémie ou pour des syndromes myélodysplastiques. Et donc, ils sont utilisés en clinique, mais c'est que très récemment que les chercheurs ont commencé à comprendre comment ça marche. Et la grande découverte des années récentes, c'est que en combinant ce type de traitement épigénétique avec des approches de immunothérapie, là, on voit une efficacité absolument énorme pour certains types de cancers, par exemple pour certains types de cancers du poumon. On pense que la combinaison d'immunothérapie et de traitement épigénétique peut vraiment donner des résultats beaucoup plus importants que chaque traitement seul.
Alors, que sait-on aujourd'hui de la transmission de cellules mères à cellules filles, finalement?
Alors, nous savons que le génome ne change pas de cellule mère à cellule fille, en tout cas pour la plupart de nos cellules, avec quelques exceptions quand même, mais l'épigénome, les changements épigénétiques peuvent être transmis. Comment? C'est difficile. Nous ne savons toujours pas les mécanismes précis de propagation des marques épigénétiques. Pour certaines marques, comme la méthylation de l'ADN, on comprend, on connaît certaines parties de la machinerie. Au moment où le génome se duplique, à chaque division cellulaire, il y a des protéines qui vont reconnaître la méthylation ou l'état hémiméthylé pour redéposer la méthylation sur le bras d'ADN nouvellement synthétisé. Donc, nous comprenons certaines choses, mais en fait, l'absence d'informations est énorme et il y a beaucoup d'efforts maintenant pour comprendre comment on transmet les marques épigénétiques, les marques de la chromatine,
dans les descendants,
d'une cellule mère aux cellules filles. Donc, c'est un des grands défis.
Des grands enjeux, là. Mais on comprend aussi que face à cette épigénétique et ce qu'elle nous révèle, finalement, on va aussi vers une médecine beaucoup plus personnalisée.
Je pense que oui. En tout cas, comprendre les marques épigénétiques ou les utiliser comme une manière de lire le caractère des cellules est importante. Donc, on utilise déjà les épigénomes comme des biomarqueurs. On peut catégoriser les tumeurs, par exemple, en disant, ben voilà, il y a un méthylome de ce type, donc c'est plutôt ce type de cancer que ce type. Donc, ça, c'est très important. Est-ce que la compréhension des mécanismes épigénétiques va nous donner une compréhension des maladies? Oui, ça va contribuer, mais je pense que ce n'est pas la même chose. Mais moi, je suis chercheuse fondamentale et je pense que c'est très important de comprendre les processus normal, enfin, dans un contexte développemental ou dans une cellule somatique. Quels sont non seulement les marques épigénétiques, mais aussi les voies de signalisation? Comment marche une cellule? Comment une cellule peut se diviser? Comment un embryon peut se former? Comment on peut avoir finalement la formation de des structures trois-dimensionnelles extrêmement complexes et belles comme un œil? Donc, en fait, il faut comprendre tout ça pour mieux comprendre ce qui ne va pas dans des maladies comme le cancer.
Et oui, la recherche fondamentale, hein, parce que c'est vrai qu'on doit souvent vous solliciter pour que de la fondamentale, on passe très vite à la recherche appliquée.
De plus en plus.
De plus en plus. Et il y a peut-être cette pression qui n'est pas évidente, hein, d'ailleurs, dans
non,
votre univers.
Non, elle n'est pas évidente. Et je pense que c'est décevant pour la société que la recherche fondamentale devient de plus en plus difficile à défendre. On passe très vite à l'appliquer. Et en biologie, on a vraiment un problème parce que la biologie... très vite, c'est quelque chose qui est transformé en l'humain. En fait, quand on est biologiste, on travaille sur la vie. La vie qui intéresse la plupart des gens, c'est aussi nous, les humains. Alors que les grandes découvertes, très souvent, viennent des systèmes modèles, des organismes ou des bactéries. Et donc, c'est très important de défendre cette recherche fondamentale. C'est que grâce à ça qu'on peut ensuite passer à des choses plus appliquées.
Alors, du coup, est-ce que votre phrase fétiche a tout son sens, là, si je la cite maintenant, hein, empruntée à Théodosius Dobzhansky, biologiste et généticien fameux, « Rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution ».
Absolument. Je pense que ça, c'est. Il y a beaucoup de chercheurs, j'imagine, qui partagent cette notion, cet avis avec moi. Ce n'est qu'en regardant dans différentes espèces et au cours de l'évolution qu'on peut comprendre la vie. Et c'est ça qui est splendide. On peut vraiment voir la diversité des possibilités. Mais pour comprendre comment, par exemple, un embryon humain se forme, il ne suffit pas de regarder juste l'être humain. Il faut vraiment regarder d'autres modèles pour voir le sens.
Alors, il y a cette transmission hein, dont on parlait tout à l'heure par rapport aux cellules, cellules mères, cellules filles, mais vous, cette transmission, vous la vivez autrement aussi, la transmission à travers les cours, par exemple, au Collège de France, et puis dans votre façon aussi d'encadrer vos doctorants et vos post-doctorants. Écoutons tout d'abord Louisa Dandolo.
À chaque fois qu'il faut qu'elle fasse son cours, elle dort à peu près 3 heures par nuit et c'est un petit peu stressant pour elle. Je crois que ce qui est important dans notre métier de chercheur, c'est la transmission. Et ce qu'elle fait avec ses cours au Collège de France, c'est la transmission à des gens qui visiblement sont intéressés par son sujet parce qu'ils reviennent tous les ans et l'amphi est plein. J'ai assisté à tous ses cours et à sa leçon inaugurale aussi. Très impressionnant. La leçon inaugurale, c'est dans un immense amphithéâtre. Il y a tous les professeurs du Collège de France qui sont là. Donc, on les regarde passer quand ils arrivent et on se dit, ah tiens, lui, je le connais. Et puis, je sais qu'Edith devait être émue. Et donc on respecte cette émotion et on écoute tout ce qu'elle a à dire. Et c'est un moment très spécial, la leçon inaugurale.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Edith Heard, alors cette transmission qui vous tient à cœur.
Oui, je pense que le Collège de France est une institution vraiment unique et incroyable pour transmettre les connaissances d'aujourd'hui au grand public. Et quand j'ai accepté de devenir professeur, j'étais bien consciente de cette responsabilité. Et oui, je la prends à cœur. C'est chaque année, c'est un défi de choisir un sujet que je trouve est important à transmettre et d'essayer de trouver le moyen de le faire clairement pour inspirer les gens qui m'écoutent et puis pour pouvoir transmettre de manière suffisamment simple pour que le public qui est là et qui n'est pas forcément scientifique comprenne au moins l'intérêt du sujet, et aussi les scientifiques qui sont là. Il y a des étudiants qui viennent m'écouter aussi, et puis des gens qui écoutent sur Internet. Donc, c'est un exercice très particulier, mais que, même si ça me fait souffrir, que j'aime beaucoup. Comment transmettre non seulement nos connaissances, mais aussi notre manière de travailler, notre, comment on dit en anglais, the work ethic, aux jeunes qui viennent rejoindre mon équipe. Et je trouve que c'est quelque chose qui est aussi très, très satisfaisant, c'est très prenant, mais j'aime beaucoup travailler avec les gens de mon équipe parce que c'est incroyable de voir ces personnalités différentes qui viennent vers moi. Déjà, je suis toujours très surprise et honorée qu'ils choisissent de venir travailler avec moi, donc ça c'est déjà une première chose. Et puis de voir qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin ce que j'imaginais. Donc finalement, la plupart des découvertes qu'on a fait en équipe, c'était les chercheurs qui ont vu des choses qui collaient pas avec ce qu'on attendait et qui sont venues vers moi et en discutant, on réalise, c'est incroyable, c'est nouveau. Et donc après, il faut creuser. En général, ça prend des années et des années, mais c'est toute une aventure, mais qui est passionnante. Donc je suis contente de faire ça et je suis fière aussi de voir que, voilà, il y a des gens de mon équipe qui ont pu apprendre beaucoup de choses et ensuite partir et faire des choses de manière indépendante aussi.
Et les conseils que vous leur donnez dans ce cas-là, c'est quoi? C'est la passion et la force du travail?
Oui, et aussi une patience. Je pense que quand on fait la recherche en biologie, il faut être très patient. Ça prend beaucoup de temps et la plupart du temps, on ne voit rien d'intéressant ou on n'en trouve rien d'intéressant. Il faut répéter les expériences, il faut être rigoureux. Donc souvent, ça marche pas. Il faut réessayer et réessayer. Mais le moment de découverte, ce moment de Eureka est incroyable. Et ensuite, construire sur ça et en équipe, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Alors, on arrive au moment de la question. Elle est posée par Blandine Collot.
Bon, Edith, si tu n'as plus ta recherche à mener, qu'est-ce que tu fais demain?
Alors, je suis convaincue que ce qu'il faut que je fasse, c'est transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris. Donc, si je ne fais plus la recherche et si je n'étais plus au Collège de France, je pense que ce que je ferais, c'est d'aller essayer de transmettre des choses à des gens qui ont besoin. Donc, bon, même peut-être avec ma recherche, je vais faire ça. C'est-à-dire, j'aimerais bien communiquer avec des jeunes. Je trouve que avec tout ce qui se passe actuellement, il y a un peu une lacune entre nous, les académiques, et les jeunes qui ne sont pas forcément aidés dans ce monde un peu difficile. Donc, j'aimerais bien pas enseigner de manière formelle, mais aller aider partout dans le monde. Voilà.
Alors je vous propose, et ça va rejoindre certainement vos aspirations, ce mot de la fin qui est donné par Daniel Louvard, un de vos mentors.
Il n'y a rien de pire que d'être ignorant. Par contre, il faut avoir la modestie de reconnaître qu'on ne sait rien et que nous sommes intrinsèquement ignorants, ce qui nous motive pour en savoir plus.
Nous sommes intrinsèquement ignorants.
Absolument, je suis totalement d'accord avec Daniel Louvard, comme toujours d'ailleurs. Et je pense que cette impression, ou cette ignorance réelle, pour moi, était très importante et reste très importante. Je veux toujours essayer de comprendre plus et m'informer plus. Et je pense que la recherche est basée sur ça. C'est pouvoir combler un peu cette ignorance, mais finalement qui est jamais totalement comblée. Et donc, il faut aller en avant.
Merci Edith Heard. Vous voyez, c'est une heure qui passe vite.
Oui, très vite. Merci.
Merci à vous. Et bien sûr, comme d'habitude, les informations et les liens sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter et sur la page Facebook. Et c'est la fin de ce numéro de La Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe. À mes côtés, Catherine Donnet, Catherine Decopé et Anaïs Morales. À la réalisation, Alexandra Malka. La technique aujourd'hui, Frédéric Changenet. La semaine prochaine, nous vous parlerons de l'histoire de l'espionnage et du renseignement, un autre univers riche d'enseignements pour aujourd'hui. Demain, n'oubliez pas, autre rendez-vous de Culture Science à 16h, Michel Alberganti et Sciences Publiques. Et dans un instant, à 17h, c'est la suite de vos programmes avec Mélanie Chalandon.